sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs.
Anselm Kiefer est l'un des plus célèbres et fascinants artistes de son temps. Son rapport intime au texte et aux écritures fait de lui un immense lecteur, puisant son inspiration, voire une ample part de son iconographie, dans des corpus sophistiqués, souvent méconnus, mêlant récits véridiques et fictions mythologiques. Anselm Kiefer est un peintre d'histoire, sans aucun doute le plus magistral de son époque. L'histoire, Anselm Kiefer ne la quitte jamais. Elle l'habite et le féconde. Elle imprègne ses œuvres, leur texture, elle en est la matière même, le sujet et l'enjeu. En témoin et en géologue, Kiefer s'y confronte et s'y aventure. Il dresse une sorte d'archéologie du savoir. Saturé de matière, ses tableaux accusent le poids de l'histoire. Les matériaux en ruine qu'ils incorporent forment l'écriture du désastre. Exilé volontaire, Anselm Kiefer a choisi de vivre en France, à Barjac, dans le Gard, mais aussi à Paris et à Croissy. Il investit et métamorphose des sites et des paysages, creuse la terre et érige des ruines autour des figures et des thèmes qui hantent son univers et sa mémoire. Bernard Blisten, 2015.
Nous sommes précisément à 22 km de Paris avec le grand artiste allemand installé en France depuis 1996 et nous sommes à Croissy, dans son atelier. Croissy-Beaubourg, me demande-t-il de préciser. Et nous sommes dans l'atelier d'un des plus grands artistes d'aujourd'hui qui affronte et commémore probablement les ruines morale et matérielle de notre histoire, qui réalise grâce à cela une métaphysique, une théologie, une esthétique de l'histoire humaine et de la façon dont elle est constituée. C'est sans doute une des plus intenses, belles et profondes réflexions sur la condition historique de l'homme. Et nous sommes avec l'artiste dans son atelier en train de commenter ses œuvres et de parler de l'art en général. Voilà Anselm, votre atelier extraordinaire dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est la suite de 5 ateliers célèbres que vous avez toujours voulu aménager comme des lieux beaucoup plus complets que seulement un lieu où l'on fabrique quelque chose.
Ah oui, oui, oui. Ici, ce n'est pas la fabrication seulement, c'est aussi la... Alors, je vois dans la hall oui. Qui est là... Je vois mon cerveau, je vois certaines choses, certains objets qui sont entreliés avec des synapses. Et quand je traverse là, j'ai des idées. Alors j'ai des comment on peut joindre des objets différents, comment on peut reconstruire une autre ordre.
En ce moment, il y a 3 ateliers simultanés qui existent de votre travail.
Au monde, tu veux dire.
Au monde. Il y a Barjac, dans le sud de la France, dans les Cévennes.
Oui, ça c'est différent. Barjac, c'est une grand landscape, un grand paysage où j'ai construit, je crois maintenant, ce sont 56 bâtiments. Parfois ils sont grands comme ça, parfois ils sont plus petits. Et j'ai fait des routes et des lacs et planté des
arbres.
Des forêts même maintenant. Et oui. Alors ici, c'est surtout le bâtiment, parce qu'autour, il n'y a pas de nature.
Qui fait 35 000 mètres carrés, quelque chose comme ça?
Oui, je peux le dire directement. 35, 60 000.
Et qui est un ancien entrepôt des magasins de la Samaritaine.
Oui, oui, c'est voilà. Ouais.
Et donc, pour l'instant, on a calmement parcouru trois salles, et donc on a à peine effleuré la situation, mais j'ai pu apercevoir en rentrant qu'il y avait des grandes allées avec des classifications de matériaux.
Oui, oui.
Et d'autres, des salles, et d'autres salles, chacune consacrée à des thèmes sur lesquels vous donnez la sensation de travailler globalement.
Oui, j'ai installé en bas parmi la collection des objets que j'ai fait, alors que j'ai installé en bas, que tu as vu les grandes étagères. Mais il y a aussi des situations où j'ai fait des actions et des installations. Parce que de peindre, c'est pas mon seul truc. Hein. Je travaille sur plusieurs dans plusieurs fields.
Photographie, sculpture, au fond, œuvre d'art.
Oui. Alors j'ai fait tout ça. Et pour cette raison, cette grande salle en bas, ça m'aide à faire tout ça.
On parle par rapport à Barjac en particulier, mais on pourrait déjà commencer à le faire ici, d'œuvre d'art totale. Qu'est-ce que ça inspire pour vous, cet aspect wagnérien?
Oui, j'ai un peu peur avec ça, parce que... Gesamtkunstwerk, ça s'appelle
en allemand.
Le mot décrit plutôt une chose assise, une chose finie. Mais chez moi, c'est pas fini. Ça peut changer. Hein. Ça change tout le temps parce que, par exemple, l'électrolyse, les tableaux qui sont subis par l'électrolyse, ils changent. Ils changent la couleur. Hein. C'est difficile pour le collectionneur. Hein.
Mais c'est parfois des processus très lents.
Oui, alors, une fois j'ai eu, je crois qu'il y a 2 ans, j'avais une exposition à Londres, dans une galerie, et il y avait beaucoup de tableaux qui étaient subis l'électrolyse, et après l'exposition, ça durait 2 mois, ou 7 semaines, je ne sais plus, 2 mois à peu près, et les tableaux étaient différents. Ils étaient vendus, hein. Et les collectionneurs ont accepté ça.
C'est l'introduction du temps à l'intérieur du tableau et de la modification est une introduction de l'histoire du tableau dans l'histoire du monde.
Oui, parce que, tu sais, même les tableaux du Louvre, ils changent.
Bien sûr.
Pas physiquement, mais ils changent par les gens qui le regardent. Ils le regardent dans son temps, ils le regardent différemment.
C'est-à-dire que pas seulement la matière physique change, mais aussi l'interprétation, les connotations, tout l'univers qui accompagne en fonction de l'évolution du savoir, des points d'intérêt d'une époque.
Oui, par exemple, tu sais, j'ai découvert une fois le sueur.
Oui, le stage sueur.
Alors avant, il n'était pas au Louvre. Quand j'étais jeune, dans les années 60, il n'était pas au Louvre. Maintenant, il y a 3 ou 4 salles. Alors, parce qu'il est comme un pop artiste, hein. Les couleurs, le rouge, le bleu, tu comprends? Alors ça change.
C'est notre vision américaine.
Oui.
Je suis surpris du nombre de sujets qui sont poussés simultanément par l'esprit de l'artiste. Simultanément, il y a le travail qui avance sur les vitrines, le travail qui avance sur les tableaux, le travail qui avance sur les sculptures. Mais on ne parle pas de 2 ou 3 tableaux et 2 ou 3 sculptures. On parle de 50 tableaux qui sont lancés en même temps. Et j'ai vu en passant qu'il y avait des aquarelles qui étaient esquissées sur les murs. Il y a des petites sculptures qui sont un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que la puissance? Qu'est-ce que veut dire la quantité?
Non, je peux répondre avec Rodin, il faut toujours travailler.
Là, je suis devant cet immense paysage qui doit faire 4 mètres de large à peu près et 2,50 mètres de haut.
5,70
mètres. 5,70 mètres. Tout a une proportion tellement gigantesque. 5,70 mètres de large et à peu près donc 3 mètres de haut.
3,30.
Un lac au milieu d'un bosquet. On voit les plantes qui sont autour du lac, qui l'envahissent peu à peu. Et au milieu de ce lac, comme suspendu du ciel, un livre en plomb immense dont les feuilles sont ouvertes. Le livre est ouvert et le plomb donne l'impression d'être oxydé. Ce qui n'arrive pas avec le plomb, normalement.
Il est pas seulement oxydé, il est électrolysé.
Ah oui.
J'ai mis le livre dans un bain électronique avec de copper.
Avec du cuivre.
Avec du cuivre d'un côté et le plomb de l'autre. Et puis, il y a une ionisation, tu connais ça, de l'école, non?
Oui.
Alors, les ions de cuivre marchent vers le plomb. Et moi, je pense aussi, quand je vois un lac comme ça, je pense aussi à toutes les maisons, les églises qui sont au-dessous. Parce qu'il y a, beaucoup de
lacs qui sont des sortes d'inondations, de villages anciens.
Oui, on a fait ça. Oui. Aussi, on fait un barrage. Ouais. Mais en Allemagne, il y a beaucoup de poèmes qui jouent sur le... Qu'on entend, si on est silencieux, toujours les cloches.
La cloche qui bat encore.
Tu connais ça?
C'est presque universel comme sensation.
Oui, je pense. Oui.
Hein, voilà.
Et puis, le livre, c'est le... Et tu ne peux pas tourner les pages tout seul. Alors, le livre est le secret au-dessous... C'est le signe du secret au-dessous de la surface du lac.
Est-ce que je peux t'interroger encore sur cette question de polarisation? Le fait qu'il y ait une hydrolyse qui soit faite entre le plomb et le cuivre, cette polarisation, elle est aussi symbolique de pôle spirituel, peut-être, non?
Ah oui, c'est l'alchimie, hein. C'est l'alchimie pure, hein. C'est de donner, de utiliser l'intelligence des choses.
Donc c'est la transmutation de la matière par les deux pôles, la positif et négatif, mais ça pourrait être la transformation du plomb en autre chose.
Oui, parce que tu peux dissolver un métal avec l'électrolyse. Oui. Et ça, c'est intéressant, non, pour un artiste.
Et pour un alchimiste aussi. Oui. Et au centre, tout d'un coup, puisqu'on a entre plusieurs tableaux sur ce thème, au centre, les briques marocaines, on a l'impression que c'est un four.
Oui, parce qu'ils sortent d'un four. Alors, les choses qui sortent d'un four, ils ont souvent l'aspect du four.
Exact.
Parce que tu sais, en Inde, ils font les usines de briques, ils se...
Dans des fours en briques.
Oui, die zehren sich auf. Alors, ils mettent les briques d'argile l'un sur les autres, avec le bois entre pour faire la chaleur. Et quand c'est cuit, ils prennent les briques. Mais les briques, c'est l'usine aussi. C'est le matériel et l'usine. Et ça, c'est intéressant.
Et c'est aussi un four cosmique, ou pas?
Oui, Atanor.
Atanor.
Oui.
Que tu as mis là, au milieu de la transformation.
J'ai donné à mon fils, c'était mon quatrième enfant, mon fils, qui s'appelle maintenant Vergil, j'ai donné le nom Atanor. Et puis je pensais que c'est un peu trop prétentieux. Non?
C'est un peu lourd, en tout cas.
Oui, s'il veut être normal, tu comprends? c'est pas le nom qu'il faut lui donner.
Mais c'est un l'Atanor pour les auditeurs qui ne le savent pas, et le four cosmique dans lequel a lieu la transmutation de l'œuvre alchimique. Les différents états de l'œuvre alchimique se déroulent dans vase cosmique.
Où ils produisent par exemple une liquide qui s'appelle alcahest, qui peut dissoudre tout, même les rocs. Alors, c'est l'électrolyse, hein? c'est ça. Où ils produisent le Stein der Weisen, la pierre des savants, comment dis-tu?
La pierre philosophale.
La pierre philosophale et tout ça. Oui.
Et en fait, je ne voudrais pas que... On croit, à moins que tu me corriges là-dessus, que ton intérêt pour l'alchimie est un intérêt simplement d'érudition. C'est plutôt, est-ce que ce n'est pas plutôt le symbole d'une transformation que tu veux faire ou à laquelle tu veux participer sur l'histoire, le monde et l'état du monde?
Ah oui, c'est toujours une transmutation. C'est quand on regarde l'histoire, l'histoire c'est un matériel. Chacun le croit autrement, le décrit autrement. Alors c'est une transmutation et... Non, la chimie, c'est pas la destruction. C'est d'abord la dissimulation, après c'est la coagulation, et comme ça on arrive à la transmutation.
Est-ce qu'il y a un sens politique dans ton relation avec l'alchimie? Tu as pris sur toi une partie de l'histoire occidentale. Tu es allé aux racines de ce qu'est le mal et le malheur occidental, et on a l'impression que tu le prends dans tes bras pour le transformer. Est-ce que s'il y a quelque chose comme ça dans ton attitude d'artiste?
Alors d'abord, je l'ai décrit, le mal. Alors, parce que je crois que les hommes sont mal construits. Le constructeur a fait une grande faute. Comme le Rabbi Löw de Prague. Il avait fait le golem, tu sais.
Le golem, oui.
Le golem, et il a, dans la combinaison des lettres, il a fait une petite faute. Et le golem était dévastateur. Et il se donnait beaucoup de mal de trouver la formule pour le déactiver, le golem. Alors, il fallait déactiver les hommes, parce qu'ils ont mal construit. Hein.
Parce que les hommes sont pris dans une opacité curieuse, je dirais. D'une certaine façon, il y a en nous un peu de lumière divine et beaucoup de matière qui ne l'est pas.
Ah, c'est toujours mélangé. Hein. Alors, il n'y a pas le bon et le mal. C'est toujours un mélange affreux. Hein.
Est-ce que quand tu réfléchis à ces questions philosophiques, parce que ton travail, il est physique et métaphysique. Il se sert du monde physique pour le transformer. Eh bien, est-ce que tu t'appuies particulièrement sur les mystiques anciennes ?
Ah oui, oui, parce que les mystiques, ils donnent une image du monde qui est parfait, qui comprend tout. Alors les sciences, tu sais, surtout aujourd'hui, c'est tellement divisé. Et j'étais une fois au CERN, tu sais, j'étais en bas, où on ne peut pas aller normalement parce qu'ils faisaient une réparature. Là où les petits quantes arrivent et sont... Et se,
là où les protons, les photons, les neutrons sont mis en collision.
En collision, c'est ça, en collision. Ouais. Là j'étais. Et il y a une armée de scientifiques hein, qui travaillent là. Alors ça ne peut plus être une chose...
Cohérente.
Cohérente, oui. Alors, mais la mystique est toujours cohérente. La mystique donne une explication au monde qui doit être interprétée. C'est pas donné comme ça. C'est pas une formule mathématique, mais qui donne une proposition de comprendre le monde.
Explique-moi pourquoi, parce que ton travail est un travail de méditation et de transformation, et pas seulement un travail d'illustration. Comment est-ce qu'un artiste se sert de cela pour réfléchir à ce qu'est l'art et quelle est sa puissance, sans être seulement l'illustrateur de sujet ?
Oui, alors, moi j'ai aimé de faire ça avec la mythologie, par exemple, d'Isaac Loria, parce que c'est impossible. C'est tellement abstrait, tu comprends? C'est
oui.
Abstrait.
Mm.
Et ça m'a provoqué, c'était un grand défi de faire quelque chose qui correspond à ça.
C'est vraiment...
Si tu fais un still life, nature morte, c'est là. Hein? Oui. C'est bien, mais là c'est plus difficile.
Oui, parce que tu es parti d'un pur concept,
en fait.
Oui. Et
oui,
pour lui donner une forme incarnée dans le monde terrestre, en fait.
Je me souviens encore quand j'ai commencé ça. J'ai commencé ça dans un hôtel à Jérusalem. C'était dans le fameux hôtel, comment il s'appelle ? King David. Oui, King David. Et là, j'ai commencé à faire des petites choses avec du scotch, avec du carton, avec des verres. J'ai cassé des verres. Room service. C'est des verres. Et puis j'ai fait des petites choses et ça a commencé comme ça.
Ça a été donc un voyage très marquant. C'était le premier voyage à Jérusalem ?
Oh, c'était des nombreux dans les années 80, oui.
Tu as appris, tu es en train d'apprendre l'hébreu ?
Non. Alors seulement quelques mots qui sont importants. Alors, Keita, Malkout, Bina, Chokma.
Qui sont les différents séphirotes de l'arbre séphirot.
Par exemple, Sefer Chalot, c'est la mystique Merkaba et tout ça. Quelques mots de keywords.
Des mots-clés,
oui.
Et quand tu travailles, là tu as travaillé avec cette métaphysique, cette philosophie, cette sagesse juive. Quand tu as travaillé avec d'autres mythes, par exemple des mythes germaniques, est-ce que tu y recherches la même chose du point de vue conceptuel ou est-ce que ça t'amène tout à fait à une autre partie de ton travail ?
Non, tu sais, les mythes, ils ont... Quelques mythes sont partout les mêmes.
Oui.
Alors, par exemple, der Völund, le forgeron, Völund,
oui.
Il est très nordique, mais tu le trouves aussi en Égypte, c'est aujourd'hui.
Ou Égypte. En Afrique.
En Afrique, oui.
Le forgeron comme personnage magique, en fait. Hein,
oui. Magique et qu'il faut mettre dans une prison, qu'il travaille pour toi.
Le jeu est fini. Mon cher frère, quand construirons-nous un radeau et ferons la descente des cieux, mon cher frère? La cargaison sera trop pesante bientôt et nous sombrerons tous les deux, mon cher frère. Nous dessinons sur le papier tant de pays et de voies ferrées. Prends garde ici devant les noires lignes, tu vas sauter sur les mines. Mon cher frère, ensuite au poteau, je voudrais être lié et crié. Mais toi, déjà sur ton cheval, tu quittes la vallée des morts et nous fuyons tous les deux. Éveillé au camp des Tziganes et éveillé sous la tente du désert, le sable nous coule des cheveux. Ni ton âge, ni le mien, ni l'âge du monde ne peuvent se mesurer aux années. Par les corbeaux rusés, par la patte d'araigne et par la plume dans le buisson, ne te laisse pas duper. Ne mange ni ne bois au pays de Cocagne. C'est le simulacre qui mousse dans les poils et pichets. Seul qui, au pont d'or, pour escarboucle, la fée, se souvient encore du mot, a gagné. Je dois te dire, avant la dernière neige au jardin, le mot a fondu. Par tant et tant de pierres, nos pieds sont si blessés. L'un guérit, avec lui nous voulons sauter, jusqu'à ce que le roi des enfants, dans la bouche de la clé de son royaume, nous emmène. Et nous allons chanter qu'il est beau le temps où germe de la date le noyau. Toute personne qui tombe a des ailes. C'est un dé rouge qui ourle le linceul des pauvres et ta feuille de cœur sombre sur mon seau. Nous devons aller nous coucher, très cher. Le jeu est fini. Sur la pointe des pieds, les chemises blanches bouffent. Père et mère disent que la maison est hantée, quand nous échangerons notre souffle.
Très souvent, de ce corps de femme esquissé pour l'instant, sort, est-ce que c'est une fleur ou un arbre?
Je ne sais pas.
Ou un arbre en fleur, peut-être?
Oui, tout est possible.
Ça pourrait être la poétesse Ingeborg Bachmann, elle-même?
Oui, c'est à toi de l'interpréter, ça. Je dis oui à tout ce que tu me dis. Parce que
c'est... Et curieusement... En général, cette figure du monde végétal qui sort d'un corps est en général un corps d'homme qui donne naissance à un arbre.
Oui, normalement c'est un homme. Oui.
Et comment se fait-il qu'il y ait cette interversion?
Comment se fait-il que c'est une femme et non?
Oui.
Ah, pourquoi seulement les hommes? C'était idiot, non? Ça peut sortir aussi d'une femme. Ou es-tu adhérent à la vieille théorie que Athénée est issue de deux hanches de Jupiter ou quoi?
Pas du tout. Mais je pensais à l'arbre de Jessé qui est une figure semblable, oui. Mais qu'on a aussi dans d'autres traditions comme Adam de Canmon par exemple, oui. Qui est aussi une autre tradition. Donc il y a quelque chose d'assez universel derrière cela,
oui,
aussi.
Oui. Oui, parce que il y a une figure humaine et il y a un arbre, une fleur, ce que tu veux, qui est en fleur. Et ça décode le rythme, la transmutation.
Donc c'est vraiment la transmutation. Moi, je suis tenté d'interpréter ça par rapport aux personnes, à la poétesse dont tu viens de parler, ouais. Mais c'est une interprétation tout à fait personnelle. Et simplement que pour se souvenir, c'est une poétesse qui a été très amie de Paul Celan.
Oui, oui.
Qui est morte dans les années 70, brûlée d'ailleurs,
Oui, on ne sait pas si c'était un suicide ou un accident, on ne sait pas. Oui.
Et c'est probablement une des plus importantes poétesses allemandes.
Après la guerre, oui, certainement.
Après la guerre,
oui, voilà. Certainement. Oui.
Et la poésie, ça me permet d'en parler, la poésie est tout le temps présente dans ton travail, comme si tu cherchais dans la poésie des possibilités d'images.
Oui, il y a deux raisons. Alors, une, c'est que j'étais toujours dans l'ambivalence si je veux devenir écrivain ou artiste. C'était toujours mon problème. Mais c'est aussi parce que je ne peins pas pour faire un nouveau style ou inventer une nouvelle peinture. Je peins si j'ai un choc, si quelque chose me choque. Ça peut être un événement, ça peut être un poème, ça peut être un paysage. Et quand ça, c'est assez fort, je commence à travailler. Alors, ce sont souvent des poèmes qui me font commencer.
Parce que tu es un grand lecteur de poésie. On peut dire que Rilke, Paul Celan, Ingeborg Bachmann sont des personnages qui reviennent très souvent dans ta réflexion.
Aussi français, Baudelaire, Rimbaud, Valérie. Hein.
Tu as parlé à l'instant de ce moment d'hésitation entre l'écriture et la peinture à l'origine de ton travail, en fait. Hein. Disant que la poésie t'amenait des chocs, mais pas ça pourrait être autre chose que de la poésie, ça peut être aussi, comme tu le disais, des paysages. Et au fond, une des curiosités que ma génération a eues à l'égard de ton travail venait de la sensation que on était à la fin de l'histoire moderne de l'art, comme si c'était une œuvre qui commençait à un moment où il y avait un doute sur ce qu'on a appelé le modernisme, l'histoire de l'art.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, ça ne me gêne pas. Alors, tu sais, après des artistes qui ont fait un seul pas, Stanley Brown, ou qui ont mis le pissoir dans le musée, qu'est-ce que tu fais après?
Oui, on peut pas le faire trois fois.
Non. On le fait maintenant mille fois, mais ça, c'est une autre chose. Non, et ça, c'était pas mon but de révolutionner encore une fois l'art, tu comprends? Mon but, c'était de réagir à mes chocs que j'ai subis. Et quant au poème, là, il faut dire aussi que, tu sais, moi, la vie, les choses, je prends pour des illusions, normalement. Ce sont tous, toi, vous, des illusions. Mais une poésie, un poème, c'est une chose réelle. Parce que c'est concentré, c'est travaillé, c'est une concentration. Et ça, c'est, pour moi, c'est réel.
C'est une concentration absolument alchimique, d'ailleurs. C'est vraiment la densification absolue de la pensée.
Oui,
et
oui.
C'est d'une précision.
Oui, c'est la précision qui me fascine, qui me choque. Et ça, pour moi, ce sont des choses réelles.
On a l'impression que tu es évidemment un des plus grands artistes contemporains aujourd'hui, très impressionnant et unique dans l'expression plastique de ton travail. Mais on a l'impression que tu appartiens, dans la réflexion que tu as, à toute l'histoire. Et que c'est comme si tu avais refusé d'isoler une histoire de l'histoire de l'humanité.
Ah oui, alors tu veux dire
une
que...
Une pensée globale.
Oui, je suis pas à certains endroits de l'évolution.
Oui.
Alors, je dis que moi, je cours en avance, mais je cours aussi en arrière. Alors,
jusqu'à la préhistoire.
On a découvert chez moi, à Parjac, tu sais, au sud de la France, on a découvert une autre grotte. Comment elle s'appelle, la grotte?
C'est très fun.
Chauvet, oui. J'ai vu ça, en réalité. Aujourd'hui, on ne peut plus voir, parce que maintenant, on a fait un double. Et là, il y a des dessins de 30 000 années avant. Et c'est intéressant, on peut parcourir l'évolution, on peut aller là. Hein.
Et on s'aperçoit, quand on fait le parcours dans la grotte Chauvet, que la succession des salles et des thèmes sont dans un rythme initiatique équivalent à ceux de toutes les sociétés.
Oui, et ce qu'on peut voir aussi, ce qui est intéressant entre historiens d'art, c'est la grotte Chauvet est plus avancée que celle de Lascaux.
Oui, qui pourtant est 10 000 ans presque plus récente.
Oui, oui,
plus
récente. C'est drôle, non?
Oui.
Parce que les choses sont déjà perspectives. Tu sais, les animaux sont plus plats, ils ont perspectives.
Oui.
Non, c'est intéressant, hein. Alors pour cette raison, je dis, je m'en fous de l'histoire de l'art. Je vais là où je veux.
Herr, es ist Zeit, Seigneur. Il est maintenant temps.
Der Sommer war sehr groß.
L'été fut très grand. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Repose ton ombre sur les cadrans solaires et détache les vents sur les plaines.
Gib ihnen noch zwei südlichere Tage.
Ordonne aux derniers fruits d'être plein.
Jage die letzte Süße in den schweren Wein.
Accorde-leur encore deux jours du sud. Force-les à la plénitude et chasse les dernières douceurs dans le vin lourd.
Wer jetzt kein Haus hat,
qui maintenant n'a point de maison,
baut sich keines mehr,
n'en bâtira plus.
Wer jetzt allein ist,
qui maintenant est seul, le restera longtemps,
wird es lange bleiben,
il veillera,
wird wachen,
lira,
lesen,
écrira de longues lettres
et inquiète wenn die Blätter treiben,
fera les 100 pas dans les allées quand les feuilles tournent en rond.
Split away in small ways.
Rainer Maria Rilke, 21. September 1902, 21 septembre 1902, Paris.
Split away in small ways. Dig the snow. Split away in small ways. Eat the trays.
Nous sommes dans l'atelier d'Anselm Kiefer, à quelques kilomètres de Paris. C'est un immense lieu de plus de 30 000 mètres carrés qui sont des anciens entrepôts. Et là, nous nous promenons au milieu des œuvres avec l'artiste et nous commentons, ou bien nous philosophons, ou bien nous discutons, car c'est un artiste qui a engagé dans son travail une partie de l'histoire de l'art et de l'histoire occidentale, de l'histoire tragique de l'Occident, et qui réfléchit sur l'origine du mal, comment est-ce que l'art peut y répondre, quelles sont les relations entre les mythes, la connaissance, les religions. C'est un travail très physique et que l'artiste traite avec des paroles et une réflexion très métaphysique. Et au fond, tu construis une histoire de la pensée plutôt qu'une histoire de l'art.
Oui, oui. Oui, c'est vrai, parce que ça appartient aussi à mon ambivalence, écrivain ou... Parce que tu sais, quand j'avais 17 ans, j'ai fait un voyage ici, en Belgique, en France. J'avais une bourse de Jean Walter, je ne sais pas si tu connais ça en France.
Non.
Ça s'appelle bourse Jean Walter. Et j'avais le premier prix, pour mon journal. Hein. Et puis, tu sais, si tu as un succès quand tu es très jeune... Tu ne sais plus quoi faire. Hein. Si tu fais cette carrière ou l'autre.
Ouais. C'était un premier voyage donc, dans la région. Tu es revenu en 69, assez longuement, travailler entre Rome, Nîmes...
Ah oui, ça c'est une autre chose, c'était Avignon. Une action. Oui. Là, c'était 63. J'avais 17 ans, 63, oui, je crois.
Oui, c'est juste.
Là, je faisais un voyage. C'était ma première voyage, parce que j'étais toujours dans un petit village en Allemagne, un petit village. Je ne sortais jamais dans une ville. Et puis, j'ai fait autostop et j'ai fait ce voyage. Et puis, en 69, c'était déjà une action artistique. Hein. J'ai conquis la France, la Belge, l'Italie. la Suisse même.
Rome aussi, non?
Oui, l'Italie, oui, tout Rome, Colosseum, après Pestum, et oui.
Alors justement, sur ces actions, c'est pas ces actions dont je veux te parler, mais est-ce que ces actions n'ont pas engagé la totalité de ton travail? À ce moment-là, tu étais vêtu d'un costume qui appartenait, je crois, à ton père, un costume de la Wehrmacht, et tu faisais un salut hitlérien dans ces différents endroits, en général des endroits choisis pour symboliser l'idée d'autorité ou de pouvoir.
Non, c'était plutôt esthétique.
C'était plutôt esthétique.
Voilà. Par exemple, à Montpellier,
oui.
Il y a une photo où j'étais entouré des platanes très comme héraldiques. Hein. Ouais.
Et donc tu faisais ce salut nazi. Alors certains disent qu'il était un peu mou, etc. Mais enfin, en tout cas, c'était très clair comme.
Boris m'a dit que c'était pas le vrai salut.
Mais c'était parce qu'il était entraîné, lui.
Voilà. Il m'a montré comment il fallait. parce qu'ils ont dit je suis un néo-fasciste. Ils ont dit en Allemagne.
Oui, ça a beaucoup scandalisé, effectivement.
Je crois toujours, peut-être. Alors. Et c'était difficile hein, pour moi. Mmh. Hein, Et puis j'ai montré ça à Boris et il a dit c'est une bonne action. Alors il a jugé professionnellement. Il a dit c'est une bonne action. Et je dis Boris, ils me prennent pour un nerveux. C'est idiot parce que toi tu l'as fait pas très bien.
Et au fond, il y avait déjà peut-être dans cette action quelque chose qui existe dans le reste du travail que tu as fait, la partie du travail sur l'histoire plus particulièrement, l'idée du rachat, redimé, comme tu disais. Il y a une sorte de sensation de vouloir redimer l'histoire occidentale.
C'est trop. Alors je ne peux pas. Redemption. Redimer, on dit rédemption, non ?
Oui, racheter en tout cas. C'est trop ?
Non, ça c'est trop prétentieux, hein, je trouve. Non, je ne peux pas. Non, j'ai ce que j'ai senti dans ce temps-là, c'était qu'il n'y avait pas leur zéro.
Oui.
Ça continuait. Alors le conseiller le plus important de Adenauer, c'était un fasciste, hein, mais pur. Et tu sais, il y avait le fameux procès
Nuremberg.
Non, en Israël de ce type qui a fait l'organisation des Juifs.
Eichmann. Dont a parlé Anna Arendt.
Le Secret Service de l'Allemagne le savait toujours qu'il était en Argentine. Il le savait, mais il ne l'a pas dit. Il fallait un Juif en Argentine qu'il a trouvé après. Mais les Allemands n'étaient pas intéressés. Si, il y avait un juge, un Staatsanwalt, Qui accuse ?
Procureur.
Un procureur en Allemagne qui travaillait avec le Mossad. Mossad, le Secret Service israélien. Et eux, ils ont fait que Eichmann était délivré. Mais imagine-toi, le Secret Service allemand le savait depuis le commencement.
Il n'a rien dit.
Oui, et tu sais, en Allemagne, aucun juge n'était condamné. Aucun.
Mm-hmm.
Et il y avait des juges affreux dans ce temps-là.
Je voudrais que tu reviennes à cette question, puisque tu dis, et c'est évident que tu as raison, que ton but n'était pas dans ton travail d'artiste jusqu'à aujourd'hui, tu n'étais pas d'accord avec le mot rédimer, racheter, c'est pas juste.
Oui, c'est trop grand.
Que néanmoins, il n'y a pas, dans ce travail sur l'histoire que tu fais, tu nous obliges à revoir des moments tragiques de l'histoire romaine, de l'histoire germaine, de l'histoire du XXe siècle, etc. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée d'une réconciliation avec notre propre histoire ? Il y a quelque chose comme ça qui est derrière ou comment est-ce que qu'est-ce que tu cherches à nous faire ?
Au cas de l'Allemagne, de Nazi, réconciliation, c'est un mot qui...
Qui ne va pas.
Ça ne va pas du tout, hein, c'est impossible. Hein. Et je vois aussi que ça peut revenir, soit ici, soit en France. Tu sais, il y a des forces, je crois, ça peut revenir.
Alors on est devant un mur dans lequel il y a une quinzaine en travail, comme ça, une quinzaine de ces vitrines extraordinaires avec qui donnent la sensation d'être liées à la vie même de l'artiste. On a la sensation que dans les bois apparaissent différentes situations dans lesquelles se trouvait l'artiste qui est en train de dévoiler ceux qui sont au travail. Dans l'une, j'ai une échelle, c'est un thème qui revient souvent dans le travail d'Anselm Kiefer. Dans l'autre, j'ai un couple avec Anselm en train de tenir une jeune femme à la main, Anselm très jeune. Un peu plus loin, j'ai une racine d'où partent des filaments comme des phylactères qui se déploient dans l'espace Juste au-dessus de moi, l'une des vitrines est aussi un bois duquel une sorte de fumée de plomb fondu semble s'épanouir à l'intérieur du bois, comme s'il y avait eu un feu. Et un petit peu plus loin, il y a peut-être un parent de Anselm.
C'est ma tante qui est morte quand elle avait 21 ans.
Sur son lit de mort.
Sur le lit de mort, oui. Oui.
Avec une photographie d'Anselm à 5 ans.
Oui, ça, je ne sais pas précisément.
Ça me soulage.
Tu sais, ça c'est intéressant parce que ça, c'est une photo. Mon père était officier dans la guerre. Et il a tous les plans de quand ils ont envahi la Russie. Les plans de comment dit-on, Feldherrnpläne.
Oui, les plans stratégiques.
Oui. Et il a aussi fait beaucoup, beaucoup de photos. Et ça, c'est dans l'Ukraine. Parce que quand ils ont arrivé, les Allemands, les Ukrainiens ont cru que c'est le Salvateur qui vient. Tu comprends? Parce qu'ils étaient tués et déportés par Staline. Ils ont cru les Allemands. Ils apportent des choses, tu comprends?
Les cadeaux pour les libérateurs, en fait.
Oui, pour dire les bienvenus. Et puis, ça tournait vite, hein, tu sais. Mais c'est quand même... Ça, c'est ma mère.
Un moment paradoxal de l'histoire.
Oui.
Pourquoi les scènes de moments importants de ta vie personnelle, toujours dans les bois? Qu'est-ce que vient dire la forêt dans cette histoire?
Non, ça c'est personnel. Le bois, c'est moi. Parce que...
La forêt,
c'est moi? Oui, parce que tu sais, quand j'étais nouveau-né, ils ont allé chaque jour, ils sont allés dans les bois pour être invisibles pour les tueurs, pour les avions. Alors je suis grandi dans le bois et le bois c'était toujours. Et je suis.
C'est la protection.
J'étais dans la forêt noire et après j'étais près du Rhin, il y avait le bois aussi. Alors c'était une sorte de home,
oui.
De patrie.
Et qui est justement le symbole, au fond, de la germanité, on peut dire.
Oui, c'est ça, oui. Hein? Les anciennes tribus germaniques dans les bois primitifs.
Alors, il y a dans les travaux une autre partie qu'on n'a pas donc évoquée pour l'instant, qui sont les vitrines. Et la dernière chose que vous avez commencé, qui n'est sans doute encore en cours, ne sont plus les vitrines que l'on a pu voir au Centre Pompidou, des vitrines très aériennes, bordées de plomb et de fer peut-être, avec à l'intérieur des éléments qui évoquent chaque fois un mythe ou un poème ou une histoire, mais qui sont maintenant comme des dioramas, c'est-à-dire des successions de plans qui...
Là-bas, oui. Alors ça, c'était une chose...
C'est très nouveau.
Oui, c'était... tu sais, je suis capable aussi du kitsch. Hein.
C'est bien, encore.
Pour moi, oui. Parce que tu as touché, c'est de velours. Samt. C'est de velours. Et le velours m'a emporté parce que c'est tellement... c'est tellement drôle, tu sais.
Ça veut dire qu'il y a simultanément... Je vois les grands tableaux... immense, je ne vais pas donner les dimensions pour ne pas me faire reprendre par l'artiste, qui sont autour de moi, qui sont sur le thème du lac, d'autres sur le thème du livre, d'autres...
Raison, ce tableau est grand. C'est 4,60 sur 7,50.
Et alors, c'est un tableau qui est fait en hommage à la fiancée du vent de Kokoschka. Pourquoi Kokoschka te revient?
Et surtout ce tableau. Ce tableau, il est toujours dans ma tête. C'est où ce tableau? Je l'ai vu, je viens de le voir. Ah oui, chez Bayerle, non? In Basel? Ah oui, je l'ai vu à Bâle. Oui, parfois, ça tourne. Non, j'aime beaucoup ce tableau. Winsbraut, hein, c'est fantastique, non?
Je me suis remis à travailler à un nouveau tableau, le plus grand que j'ai jamais fait. Il représente l'intérieur d'une église en ruine. J'ai choisi comme modèle la belle cathédrale de Meissen, qui existe encore en bon état. Des décombres qui remplissent l'intérieur sortent des piliers puissants avec des colonnes sveltes et gracieuses qui portent encore une partie des voûtes élancées.
Les temps de gloire de ce temple sont révolus. De ses ruines s'est dégagée une nouvelle époque, un nouveau besoin de clarté et de vérité. Des sapins hauts et sveltes poussent entre les ruines et un ministre protestant se tient debout sur les décombres des statues saintes, des autels et des bénitiers, appuyé contre ce qui reste du monument d'un évêque. Caspar David Friedrich, vers 1830.
Donc autour de moi, il y a des personnages qui sont dans des vitrines. Il y a un peu plus loin des sous-marins dans des vitrines immenses qui, il faut se rendre compte qu'elles font 4,50 m de haut à peu près. Et probablement...
Vous savez, c'est revenu de Londres. C'était dans la cour de la Royal Academy, les navires, les Khlebnikov.
Et il y a un étrange... Je suis devant une vitrine très spectaculaire parce que c'est un grand thème... catholique, on peut dire,
oui, oui.
Et donc inattendu peut-être. Et donc il y a cette grande robe, tunique, un petit peu souillée de peinture, et une écriture sur laquelle il y a marqué « Ave Maria, gratia plena ». Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Gratia plena.
Oui.
Gratia.
Gratia plena. Et évidemment, sous cette robe suspendue à un cintre rouillé, il y a le serpent que, normalement, dans l'iconographie chrétienne, la Vierge écrase de son talon.
Yeah.
Voilà.
Yeah, yeah.
Et qui vient souvent dans votre travail, dans ton travail, avec des sens très différents. On le voit chez Aaron, par exemple,
oui,
dans un tableau.
Mais tu sais, j'avais une apparition de Maria quand j'étais jeune. Non, elle est venue chez moi, oui, oui, dans une tunique bleue, très, très jolie, elle est venue chez moi. Quand j'étais le matin dans le lit, en train de me réveiller, j'ai vu.
Un choc, peut-être.
Non, c'était normal pour moi dans ce temps-là.
Je suis un
non,
peu...
Non, parce qu'en enfant, comme un enfant, on prend tout comme donné, comme...
Mais tu as vraiment eu cette apparition? Tu l'as vraiment oui. ressenti
ouais. Je l'ai vue, oui. Mmh. Je ne me crois pas. Non, mais il y a des centaines...
On vit dans le doute, on vit dans
non,
le
non,
doute.
Non, mais il y a des centaines d'apparitions dans le monde de Maria, tu sais.
Oui.
C'est une hallucination, c'est normal. Il y a des gens qui ont ça.
On est devant un tableau absolument extraordinaire. Un hangar gigantesque dans lequel on aurait pu construire des avions, des sous-marins.
Ça existe, c'est à Tempelhof, à Berlin.
Et qu'est-ce que c'était comme endroit?
Ah, c'était un aéroport. C'était le fameux aéroport où ils ont fait le pont. Parce que Berlin, c'était encerclé des communistes, hein, tu sais. Ils ont fermé les routes. Alors, ils ont apporté tout le charbon, toute la nourriture par avion. Tu te souviens
non,
de ça?
Non, pas du tout.
Non, c'était le fameux truc pourquoi les Allemands, les Berlinois aiment les Américains. Parce qu'ils ont sauvé la ville. Et ça, c'était à Tempelhof qu'ils ont atterri. Et Tempelhof, c'était longtemps un aéroport. C'est le plus beau aéroport au monde, pour moi.
Et donc, sont suspendus, la tête en bas,
oui.
une quarantaine de très grands tournesols arrachés. Oui. Les plus grands font 4 mètres de haut, à peu près. Et ils sont suspendus tête en bas, sur ce fond vert pâle. Et qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, c'est à toi.
C'est à moi de jouer.
Oui.
Mais c'est toi qui es interviewé, néanmoins. Mais ce thème, exactement la même salle d'aéroport.
C'est un aéroport, ça veut dire en vol, on décolle.
Oui.
Mais les tournesols sont upside down, ils sont renversés. Alors c'est le grand truc du Sefer Hechalot, de la Merkaba mystique, que on monte, mais en même temps on descend dans en soi-même.
Oui.
Ou dans le Faust, tu sais, le Faust, c'est steigen, steigen, sinken, nieder. Alors en montant, tu descends. C'est intéressant, non?
Oui. C'est l'exploration de soi par l'ascension spirituelle, on pourrait dire. Oui. Et pour toi, la racine du mal fait partie des grandes sources de ton travail, des grands sujets de réflexion de ton travail.
Et je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas la racine du mal, je dirais la réalité.
C'est pire.
Oui. Oui, mais c'est ça. C'est... Moi, je montre les choses, tu sais. Je les révèle. Je les décamoufle.
Oui, ouais. On peut dire tu les décèles au sens tout d'un coup tu les rends exotériques, tu les rends au visible, tu enlèves ce qui est caché.
Oui.
Tu cesses, donc c'est ça. Quel est le pouvoir de l'art sur ce grand sujet?
Alors d'abord, il n'y a aucun pouvoir direct. Il n'y a pas. C'est difficile avec le pouvoir. C'est plutôt... La philosophie peut avoir un pouvoir. Alors Marx, Engels, ils ont eu de pouvoir. Mm-hmm. Mais c'est sûr que l'art change quelque chose. Mm-hmm. Mais si je le nommais pouvoir, je ne sais pas. Mais ça peut changer, ça change déjà la vue.
Oui. Oui. Alors, mettons que l'art n'ait aucun pouvoir. C'est-à-dire, c'est vrai que Picasso, les grands artistes, au fond, n'ont eu aucun impact politique particulier.
Non, il était communiste, Picasso, mais quel communiste, hein?
Oui, oui.
Quel
genre de mais et puis ça n'a pas changé la société.
Non.
Par contre, j'ai pourtant l'impression, presque la conviction, que l'art est quand même une mystique qui, en dépit de sa fragilité dans le monde, maintient quelque chose. Est-ce que on peut dire que l'art maintient quelque chose?
Moi, je sais que le monde est une illusion. Tout ce que m'apparaît, vous, c'est une illusion. Et si j'arrive à concentrer quelque chose, de faire une pierre, une concentration, ça c'est ce que l'art peut fournir.
Au fond, c'est la même question que celle d'Hölderlin sur Vosou. Pourquoi des poètes? Pourquoi des poètes? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde?
Oui,
en dehors d'apporter...
Warum Dichter in dürftiger Zeit?
Oui, dans l'opacité de la nuit du monde.
Oui, pour moi, c'est la... Die Rettung. Ça, c'est une Rettung. C'est la... Pas dans le sens ecclésiastique. Salvation.
Oui, ça nous sauve. Mais ça nous sauve.
Voilà. Ça nous sauve, oui. Parce qu'il n'y a pas de sens dans le monde. On ne sait pas d'où on vient, ce qu'on fait... Mais c'est tellement fou qu'on voit le cosmos, on ne le voit pas, mais quand on imagine. Et qu'est-ce que nous devons ici? Nous sommes tellement petits et on ne sait pas pourquoi il y a une race comme les hommes qui est devenue intelligente et consciente et tout ça. Pourquoi? On ne sait pas. Mais quand je fais une œuvre, quand je fais un tableau, là, je trouve un sens. Je produis un sens. Le sens est illusionnaire aussi. Hein. C'est illusionnaire aussi,
oui,
mais sur un autre stade.
Oui, sur un autre stade. Quand vous avez fait l'exposition impressionnante au Centre Pompidou qui vient de se terminer, beaucoup de personnes qui connaissent les endroits où vous travaillez ont pensé qu'il aurait été mieux, plutôt que de faire une exposition au Centre Pompidou, de mettre des autobus devant le Centre Pompidou pour venir ici à Croissy voir le monde que vous créez. La grande cohérence global de votre travail?
Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Pas le monde. Le monde n'est pas bien ici. Alors, je le montre à des amis, à des gens qui sont vraiment intéressés, qui sont un peu spécialisés. Mais je veux être seul ici. Pas parce que je veux créer. Alors, on ne peut pas... Tu sais, si le monde arrivait ici... Ce serait une sorte de pétrification.
Oui.
Oui, parce que...
C'est que ça devient comme un musée fermé après, et arrêté.
Après,
oui.
c'est dans les journaux, c'est dans les médias, et puis c'est arrêté. Et ça, non, il faut que je reste seul ici.
Fall ab, Herz. Fall ab, tombe, cœur, Herz vom Baum der Zeit. Tombe, cœur de l'arbre du temps. Fallt, ihr Blätter aus den erkalteten Ästen, die einst die Sonne umarmt. Depuis les branches gelées qui jadis enlaçaient le soleil. Tombe, fallt, wie Tränen fallen aus dem geweiteten Aug. Comme les larmes tombent des yeux dilatés, fliegt noch die Locke taglang im Wind um des Landgotts gebräunte Stirn. La boucle vole encore tout le jour dans le vent, autour du front bruni du dieu de ce pays. Sous la chemise, le poing presse déjà la blessure béante. Drum sei hart, pour cela tu dois être dur, quand le tendre dos des nuages se penche encore une fois vers toi. Nimm es für nichts. Prends-le pour du rien. Quand du mont Hymettos, les rayons de miel te remplissent pleinement encore. Denn wenig gilt dem Landmann ein Halm in der Dürre. Car pour le paysan, une tige dans la sécheresse ne vaut pas grand-chose. Pas grand-chose l'été de nos grands lignages. Et que témoigne déjà ton cœur? Zwischen gestern und morgen schwingt es lautlos. Il balance entre hier et demain. Und fremd. Muet et étranger. Und was es schlägt, et ce qu'il bat, ist schon sein Fall aus der Zeit, et déjà sa chute hors du temps. Ingeborg Bachmann, Fall ab, Herz, 1952.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, Jean de Loisy s'entretenait avec Anselme Kiefer dans ses ateliers de Croissy-Beaubourg. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission et site internet, Sylvia Favre. Lecture des textes, Andrea Schiffer. Prise de son, Benjamin Chauvin. Réalisation, Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Jean de Loisy et Sandra Adam. Et dans quelques instants, Catherine Libert et Villemonde.
Come before you go, babe. Go until you come, babe. Come until you go, babe. Go to come for me, babe. Come to go by me, babe. Come to go with baby, come to go.